Les trois grandes lumières. Conformément aux traditions de l'ordre, trois grandes lumières sont placées sur l'autel des serments. L'équerre, le compas et le volume de la loi sacrée. Les obligations des maçons sont prêtées sur ces trois lumières. Il nous faut donc nous interroger maintenant sur la présence de ces outils et de ce livre, posés sur l'autel des serments et sur leur signification. Pourquoi l'équerre? Pourquoi le compas? Pourquoi ce livre? Et ses outils? Sans doute parce qu'ils symbolisent l'activité du maçon franc et accepté, qui est et veut être un bâtisseur, un constructeur, à la limite, un bâtisseur d'hommes. Parce que concrètement, ces outils manifestent l'homme lui-même dans son essence, dans sa dimension proprement humaine, parce que l'outil est le signe de l'intelligence humaine. L'intelligence, écrivait Bergson dans L'évolution créatrice, l'intelligence envisagée dans ce qui paraît être la démarche originelle et la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d'en varier indéfiniment la fabrication. Mais pourquoi l'équerre? Pourquoi le compas plutôt que tout autre outil? Sans doute, parce que l'équerre est utilisée par le maçon qui taille la pierre pour la rendre cubique, afin qu'elle s'insère plus facilement dans un ensemble et le rende plus solide et plus harmonieux. D'une manière plus générale, nous pourrions dire que l'équerre et l'instrument qui permet de passer d'une matière désordonnée, sans forme et sans structure, à une matière ordonnée et structurée. Et, si nous considérons l'homme lui-même, de permettre de passer de cet homme livré au chaos des passions et de la démesure à un homme plus mesuré et plus harmonieux, soumettant son être à la rectitude du jugement et à l'empire de la raison. L'équerre est devenu en ce sens pour le franc-maçon le symbole même de la rectitude, de l'équité, et c'est pour cette raison qu'elle est l'insigne du maître de la loge. De plus, il faut se souvenir que dans les croyances anciennes, l'équerre est censée représenter symboliquement l'espace terrestre lui-même, qu'elle renvoie à l'idée de nature ou de réalité matérielle, ce qui sans doute veut signifier que tout homme qui veut penser et agir ne peut le faire qu'en prenant en compte cette réalité de la matière, que celle-ci soit physique, biologique et pourquoi pas économique et politique. Mais cet équerre sur l'autel des serments est toujours associé au compas. Cet outil, nous le savons, sert à tracer des cercles, et si l'équerre renvoie à la terre, il faut se souvenir que le compas, lui, renvoie au ciel. Et que, lorsqu'on considère l'homme lui-même, il symbolise l'intelligence ou l'esprit dans sa libre interprétation et appréciation des choses et des êtres. Il symbolise l'esprit et la liberté, c'est-à-dire ce qui, par définition, ne saurait apparaître matériellement, mais qui est tout autant réel que la réalité matérielle même, puisque c'est par l'esprit que cette réalité prend forme et s'incarne dans une signification. Mais cet équerre et ce compas sont toujours associés sur l'autel des serments, l'un à l'autre, dans une sorte de relation réciproque et complémentaire, nous dirions dialectique. Ce qui signifie que l'on ne saurait les penser indépendamment l'un de l'autre, mais l'un avec l'autre. Qu'il faut penser l'équerre avec le compas et le compas avec l'équerre. De même, la matière, materia prima, renvoie à l'esprit qui lui donne forme et signification. De même, l'esprit ne peut se saisir et se réaliser qu'en prenant appui sur la matière. Tout maître maçon est situé, disons-nous, entre l'équerre et le compas, entre la terre et le ciel, entre la nature et l'esprit, entre la réalité et l'idéal, et cela symboliquement, mais aussi sur le plan cosmique, comme sur le plan humain. La méconnaissance du réel et de ses lois est dangereuse, mais le mépris de l'idée ou de l'idéal et des valeurs est tout aussi néfaste. Le franc-maçon doit tenir compte, dans ses pensées et dans ses actions, des deux instances, s'efforcer de les équilibrer, de les harmoniser, d'aller à l'idéal en tenant compte du réel. L'équerre et le compas, enfin, sont eux-mêmes posés sur le volume de la loi sacrée. Au rite écossais ancien accepté, le volume est généralement la Bible, et elle est ouverte au prologue, je dis bien au prologue, de l'évangile de Saint Jean. Je voudrais rappeler ce prologue. Au commencement était le Logos, si vous préférez, au lieu de parler grec, parlons latin. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout apparut, et sans lui, rien n'apparut de ce qui est paru. En lui était la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il est d'ailleurs intéressant de se souvenir que lorsqu'au XVIIIe siècle, les francs-maçons voyageaient d'un Orient à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, on leur posait cette question à l'entrée de la loge, « D'où venez-vous ? » et qu'ils devaient répondre d'une loge de Saint-Jean. Mais, pas plus que nous ne saurions donner une définition dogmatique du grand architecte de l'univers, nous ne saurions donner une signification confessionnelle particulière à la Bible. La Bible n'est pas pour nous, francs-maçons, uniquement le livre des Juifs, le livre des catholiques, des protestants et des orthodoxes. Il est pour nous le livre de tous les hommes, de tous les hommes de bonne volonté, sans doute de ceux qui cherchent leur salut, mais aussi le livre de ceux qui cherchent la sagesse. Il est le livre de la tradition, il est le livre de la lumière, de cette lumière qui éclaire tous les hommes, et je dis bien tous les hommes, et qui est essentiellement parole universelle, parce qu'elle est parole d'amour entre tous les hommes. Nous retenons de ce message cette idée essentielle. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et avec l'évangéliste, nous voulons nous souvenir que celui qui aime son frère est dans la lumière, mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Ici, la loi d'amour est principielle, et c'est parce qu'elle est principe et fondement qu'elle dépasse les différentes confessions particulières et historiques liées à une révélation qu'elle est universelle. Mais cette loi, il ne suffit pas de la connaître ou de la reconnaître, il faut la pratiquer. N'aimons pas seulement en parole mais en œuvre, avec vérité. La vérité de notre loi se traduira dans nos actions et dans nos œuvres, car il s'agit de faire le bien et de pratiquer la justice. Dans cet esprit, le vrai fidèle est celui qui fait le bien véritablement, celui dont les œuvres sont bonnes, même s'il s'écarte des dogmes. L'infidèle est peut-être celui qui proclame son accord avec les dogmes, mais qui introduit entre les hommes l'esprit de désordre et de haine, et qui s'écarte de la justice et de la charité. Ainsi, l'équerre, le compas, le volume de la loi sacrée sont toujours unis sur l'autel des serments, dans la loge traditionnelle. Ils sont unis comme sont unis des moyens et une fin, car il s'agit pour le franc-maçon, avec ses outils symboliques, de tracer les plans d'un temple et de le bâtir selon la règle de l'amour, la règle de l'amitié. Il s'agit de réunir ce qui est épars, de rassembler ceux qui sont divisés, de réconcilier ceux qui sont déchirés. Il s'agit plus encore de réconcilier enfin l'homme avec lui-même, dans l'équilibre et l'harmonie, et dans la liberté, par la recherche de la vérité, par la pratique de la justice, c'est-à-dire par la connaissance et par l'amour. Le franc-maçon écossais prête serment sur ces trois lumières. Par là, il s'engage à en découvrir le sens et en reconnaître la valeur, à en traduire l'esprit dans sa loge d'abord, vis-à-vis de ses frères, mais aussi en dehors de sa loge avec tous ses frères des autres loges, enfin, dans le monde, avec tous les hommes de bonne volonté. Cette fraternité universelle, il s'engage et doit s'efforcer de la faire reconnaître, de la faire respecter, de la faire valoir dans la société où il vit, dans sa cité, dans sa patrie et dans l'humanité.